élection législative en France. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Le regard de notre invité Afrique dans quelques minutes. Le troisième vice-président du Sénat au Gabon, Marcona Essangui. À suivre aussi, reportage aux Comores, la difficile gestion des déchets à Moutsamoudou. Afrique économie, la pêche en difficulté sur le lac Albert, côté congolais. Et avant le journal, on retrouvera Maman, comme chaque matin. Et pour l'heure, voici les sports avec Sarah Lou Bakouche qui entre dans ce studio. Alors installez-vous, Sarah Lou, bonjour.
Merci,
à vous.
Bonjour.
Le football à la une en Europe comme en Amérique. Les équipes nationales sont en lutte pour la couronne continentale.
Oui, suite des huitièmes de finale de l'Euro, l'Espagne, elle, a encore été royale hier face à la Géorgie. Une victoire 4-1, royale et revancharde. Hein. Pourtant, en totale maîtrise, dès le coup d'envoi, la Roja s'est laissée surprendre. Elle a offert l'ouverture du score à la Géorgie, hein, avec un contre son camp de Robin Lenormand qui a réveillé le courroux espagnol et a ensuite infligé en cette sélection espagnole 4 buts aux Géorgiens.
Ouais, victoire 4-1 donc pour l'Espagne face à la Géorgie. Cette équipe géorgienne qui voit ainsi son épopée européenne dans cet Euro stoppée net.
Oui, puisque la sélection, cette jeune sélection, disputait son tout premier Euro. Nation surprise de la compétition mais qui peut sortir la tête haute. Oui, elle n'ira pas en quart, mais elle a déjoué les pronostics, hein, déjà en sortant de son groupe et en battant le Portugal 2-0. Suite de l'aventure pour les Espagnols, ce sera vendredi en quart de finale face à l'Allemagne. Un choc qui, lui, s'annonce impérial.
Les Anglais, eux, se sont qualifiés pour les quarts de finale face à la Slovaquie. Les Anglais l'ont emporté 2-1.
Oui, sans aucune majesté en revanche, hein, les True Lions qui sont revenus de nulle part. Ils ont plus que frôlé l'élimination face à la Slovaquie. Les finalistes du dernier Euro anglais mené au score jusque dans les toutes dernières minutes du jeu. Il se sauve dans le temps additionnel. Égalisation à la 95e grâce à un splendide retourné instinctif de Jude Bellingham, suivi d'un but d'Harry Kane qui a donc offert la qualification aux Anglais. Bellingham, sauveur d'une Angleterre en souffrance et qui savoure ce but historique.
Oui, c'est probablement le but le plus important de ma carrière. Ou dans les environs au moins. Il y en a quelques autres de beaux qui veulent dire beaucoup pour moi. Mon premier but avec Birmingham, avec Dortmund ou pour Madrid, c'est toujours spécial. Mais je pense que ce but fait partie du lot. Vous savez, il est tellement impactant aujourd'hui. Si je ne marque pas, l'humeur n'aurait pas du tout été la même. Donc oui, ce but-là est tout en haut.
Les hommes de Gareth Southgate qui vont retrouver la Suisse, tombeuse de l'Italie. Ce sera samedi en quart de finale.
Et le football, encore plus de couronne continentale en jeu, mais une médaille en or, celle des Jeux Olympiques, avec une mauvaise nouvelle pour le Mali.
Oui, c'est l'une des trois nations africaines qui va prendre part au tournoi à Paris cet été. Mamadou Sangaré quitte le rassemblement des Aiglons. Il doit donc renoncer aux Jeux Olympiques. Son nouveau club avec qui il vient de signer, le Malien, le Rapide de Vienne, n'a pas l'intention de le libérer pour le tournoi. Le jeune Aiglon avait déjà l'aura d'un titulaire. Le premier match du Mali, ce sera le 24 juillet face à Israël.
Ce sport, lui, n'est toujours pas une discipline olympique, mais il est extrêmement populaire. C'est la pétanque.
Et hier, dimanche, débutait la 63e édition du Mondial organisée par la Marseillaise. Il a lieu donc à Marseille, ce tournoi. Plus de 12 000 participants et 170 000 spectateurs sont accueillis. Parmi les équipes présentes, l'une des plus en vue, c'est le Bénin. Reportage de Siam Spencer à Marseille.
Dans les allées du parc Borély, un bruit des plus provençales se mêle au chant des cigales. Provençal, mais pas que. Parmi les 4000 équipes inscrites au Mondial, il y en a une qui se fait remarquer, c'est celle du Bénin, dont fait partie Marcel Biot.
Mais on est prêt, on est venu pour ça normalement. Donc, quelle que soit l'équipe qu'on a en face, on va faire de notre mieux et je suis sûr qu'on va gagner.
Dans l'équipe également, Marcel Bétablé, champion du monde de pétanque 2023 en doublette, pour qui la journée a bien commencé.
On s'est régalé de gagner la première à 13-2. Bon, c'était pas une très grande équipe en face, mais il faut jouer quand même. Il faut jamais sous-estimer une équipe. Il faut finir de gagner avant d'être sûr de soi-même.
Bien loin des ruelles de Cotonou, il a commencé à jouer il y a 12 ans. Ce Béninois de 27 ans a su se faire un nom dans le monde de la pétanque.
Il y a même des inconnus que je ne connais pas, mais eux, ils me connaissent de nom, mais ils ne m'ont jamais croisé. Dès qu'ils me voient, ils sont contents. Oh là là, le Béninois, il est là et tout. Moi-même, ça fait un plaisir.
Samuel, venu de La Réunion, suit son parcours depuis plusieurs années.
Oui, c'est un très grand joueur. Nous, à La Réunion, on est fans des joueurs comme ça. Nous, on regarde toujours la télé. Je l'admire beaucoup. Lui, Marcel Biot, C'est des grands champions.
Ça fait partie des personnes contre qui vous voulez pas tomber ?
Ouais, plus tard mieux c'est.
La compétition qui se poursuit jusqu'à mercredi où Samuel espère assister à une finale avec, en haut du podium, son équipe béninoise favorite. Siam Spencer, Marseille, RFI.
Le Bénin, qui on le rappelle, avait accueilli le championnat du monde déjà en septembre 2023.
Merci Sarah Loubacouche et à tout à l'heure dans RFI Matin.
RFI, toute l'actualité, Arnaud Pontus.
Avec à la une, le Rassemblement National qui sort largement en tête du premier tour des élections législatives françaises. Le parti d'extrême droite récolte un peu plus de 33% des suffrages, c'est 5 points de plus que les partis de gauche, unis sous l'étiquette Nouveau Front Populaire. Le parti présidentiel arrive troisième avec un peu plus de 21% des voix. Édition spéciale à suivre ce matin sur RFI, résultat complet aussi sur RFI.fr. Le Premier ministre israélien évoque des combats difficiles alors que l'armée pour suit des opérations massives dans la bande de Gaza. Les combats se concentrent dans la ville même de Gaza et dans celle de Rafah. De nombreux témoignages évoquent d'intenses bombardements dans l'après-midi d'hier. Le Hamas a évoqué la mort de 43 personnes.
RFI Matin.
Notre invité Afrique à écouter dans moins d'une heure sur RFI. Nous serons avec Marco Naesangui, figure de la société civile gabonaise, troisième vice-président du Sénat du Gabon. Il se définit comme un grand observateur de la vie politique française. Il a donc suivi avec intérêt le premier tour des élections législatives. En cas de victoire du Rassemblement National dimanche prochain, il pense que l'extrême droite ne pourra pas appliquer son programme, notamment en matière d'immigration. Marco Naesangui.
Si vous suivez les campagnes électorales dans les différents pays en Afrique, le discours qui est porté sur l'immigration est un discours qu'on retrouve dans tous les peuples, c'est le populisme. Alors face à ce populisme, quelle est la réalité? Les hommes politiques qui discourent ne sont pas toujours ceux qui mettent leur discours en pratique. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Bardella, à la tête du gouvernement français, ne pourra jamais appliquer ce qu'il a prononcé comme discours. Ce sont des discours populistes pour se faire élire.
Mais selon vous, que va changer la reconfiguration politique en France qui s'annonce ? Quel impact cela pourrait-il avoir pour le continent africain sur le plan économique et politique ?
Je pense que ce sont les relations de coopération entre la France et les pays africains qui vont s'imposer. Je suis gabonais. Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la France et le Gabon. Chaque pays définit la politique de coopération avec tous les partenaires internationaux. C'est valable pour la France, c'est valable pour la Chine, pour la Russie, pour les États-Unis. Je ne pense pas que nous soyons esclaves d'une certaine vision entre la France et l'Afrique. Non, chaque pays va définir sa politique.
Le Gabonais Marco Naesangui avec Kaourou Magassa, notre invité Afrique, à écouter tout à l'heure. Reportage aux Comores ce matin sur l'île d'Anjouan, à Moutsamoudou. La gestion des déchets reste un défi majeur. Malgré la création d'une agence nationale chargée de la gestion des déchets et malgré aussi les efforts de la mairie de la commune, les résultats ne sont pas encore à la hauteur. Le maire et une association communautaire luttent conjointement, mais les obstacles surmontés semblent insurmontables. Reportage d'Abdallah Mzembaba.
À Moutsamoudou, la mairie a une mission, mais c'est la communauté qui a les moyens. Ici, la gestion des déchets occupe une place centrale. Pendant des années, les déchets étaient jetés à la mer, mais grâce à la FAM, l'Association des femmes actives de Moutsamoudou, cette pratique a désormais cessé. Pour autant, les initiatives du maire, Zarouki Bouchran, sont entravées par la réticence des habitants et un manque de moyens logistiques.
Nous avons une parcelle de 3 hectares qui nous avait été donnée par la FAM. Ensemble, on a voulu construire un hangar qui permettait de traiter d'un côté le plastique et de l'autre faire des supports des œufs. Mais tout ça n'a pas été possible parce qu'il nous manque de moyens.
Khadija Abdou Saïd, présidente de la FAM, insiste sur le besoin de financement.
Nous avons présenté des projets auprès des organismes et nous espérons que nous aurons une suite parce qu'on sait que le site ne peut pas être une déchetterie.
Le maire de Moutsamoudou critique l'absence de l'État qui soutient selon lui Moroni seulement.
Je trouve que en fait c'est pas normal puisque les lois de finances concernent Moroni, Fomboni et Mutsamudu. J'ai du mal à comprendre que par mois aujourd'hui Moroni perçoit 19 millions de francs, 16 pour les déchets et 3 pour le carburant, et qu'à Mutsamudu et Fomboni zéro. C'est une irresponsabilité de la part des dirigeants.
En plus du manque de budget, il n'y a pas de loi sur la gestion des déchets. La femme se focalise donc sur des comités de jeunes de quartier.
Nous espérons que les comités prennent en charge chaque quartier pour pouvoir donc aboutir à cette gestion-là. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la mairie a des problèmes, il y a des problèmes de communication, ils n'y arrivent pas.
Pour Zarouki Bouchran, il y a une volonté manifeste de saboter ces initiatives.
Nous avons eu l'aide des poubelles de 1300 litres qui nous ont été données par la femme. On a essayé ce système de poubelles qui n'a pas été positif parce que la mentalité des administrés n'était pas à la hauteur des événements. Au lieu de mettre les déchets dans les poubelles, ils les posaient par terre.
Une enquête locale montre que les habitants jettent leurs ordures 6 fois par jour, mais que le camion de la mairie, lui, ne passe qu'une fois par semaine. En 2023, la gestion des déchets a coûté 80 millions de francs à la mairie. Bayar Issiaka Solihi, de l'Agence régionale de gestion des déchets, explique que l'agence se concentre sur les 3 capitales, bien qu'il y ait 54 communes. Pour la mairie, cette agence est inefficace. Abdelhamzimbaba Mutsamudu, RFI.
Un reportage que vous retrouvez sur RFI.fr et notre application RFI Pure Radio. Afrique Économie, sur le lac Albert, ce lac qui sépare la République démocratique du Congo de l'Ouganda, c'est l'un des plus grands d'Afrique et un des plus riches en poissons. Mais aujourd'hui, sa surexploitation menace le renouvellement des stocks. Les autorités congolaises ont pris des mesures pour sauvegarder la ressource, mais cela accroît la concurrence avec les pêcheurs de l'Ouganda voisin. Au village congolais de Kasseni, la pêche n'est plus ce qu'elle était. Reportage Afrique Économie de Coralie Pierré.
Une dizaine de pêcheurs hissent la pirogue jusqu'à la berge. La pêche est maigre ce matin de mai à Kasseni. Nombreux sont les résidents qui se sont tournés vers l'import-export, explique un manutentionnaire.
Comme les pêches, c'est le principal travail d'ici. Mais notre pêche d'aujourd'hui ne donne pas de poissons, tout ça. On ne sait pas s'il y a les manquements des matériaux pour les pêches ici.
La RDC a interdit l'utilisation de certains filets à petite maille. L'objectif, lutter contre la surpêche et favoriser la reproduction des poissons. Des zones de frayeur ont aussi été délimitées. Régulièrement, les services congolais détruisent les matériaux hors normes et arrêtent les pêcheurs illégaux. Mais en face, côté ougandais, les règles sont différentes.
Les poissons viennent de l'Ouganda, car ici, au Congo, il y a beaucoup de patrouilles.
Depuis son étal, Tina détaille son commerce de vendeuse de poissons.
Il y a des gens qui pêchent en Ouganda, d'autres qui achètent et qui nous ramènent le poisson ici. Nous, les vendeuses, nous achetons en gros. Puis nous vendons au détail aux clients de Bunia, Mongwalu, Komanda, Mambasa, Beni, Ocha. Nous amenons les poissons de l'Ouganda jusqu'ici au Congo.
Résultat, la concurrence est rude et les pêcheurs congolais se retrouvent souvent sans emploi. Christophe Lonama est le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo.
Nous avons un constat amer, comme il y a baisse de production. S'il y a baisse de production, vous voyez, ça va créer maintenant le chômage. C'est ce qui n'est pas bon. Dans les années avant, les poissons de la Calvaire, on l'exportait un peu partout, comme il y avait quantité. Alors maintenant, là, il y a une diminution sensible de quantité de poissons. Il y a même disparition de certaines espèces dans les lacs. Et suite au non-respect des zones de frayeur, et suite à l'usage des filets prohibés.
Le lac Albert est déjà considéré comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison de la pollution liée à la présence humaine autour du lac. Le projet pétrolier de Total sur les rives du lac côté Ouganda inquiète aussi les écologistes. Coralie Pierret, de retour de Kasseni. RFI.
À suivre sur RFI dans une heure, les matières premières. Nous irons en Afghanistan où les talibans tirent des milliards du sous-sol du pays. Ce sera avec Marie-Pierre Olfant tout à l'heure. Dans 4 minutes, un nouveau journal, toute l'actualité à suivre. Et d'abord le sourire de Maman. Maman, dans une élection, on arrive toujours au moment où les urnes donnent leur vérité.
Oui, comme dit l'adage, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Eh oui, les élections sont finies. Le premier tour de l'élection présidentielle ayant donné son verdict, on peut donc commencer à tirer le bilan, regarder qui a eu raison, qui s'est planté, qui roulait des mécaniques et qui est parti se cacher pour pleurer. C'est la beauté des élections. Il y a la campagne électorale pendant des semaines et des semaines, puis il y a la réalité implacable des résultats qui tombent tout d'un coup. Pendant la campagne, tu peux bomber la poitrine, relever le menton et dire que quand tu seras président, ben tu feras ci, tu feras ça, alors que tout le monde sait que t'as aucune chance de gagner, mon ami. Mais comme c'est les sondages avant les élections, ben on laisse chacun tirer les plans sur la comète et dire qu'il est le plus beau. Et donc les résultats sont tombés hier à 20h. Et là, la lumière a été allumée comme dans une boîte de nuit. Tu sais, au petit matin, quand la fête est finie, quand la sécurité vire les derniers danseurs, quand le personnel de ménage allume les néons pour nettoyer le plancher sale et que tu réalises que tu dansais en fait dans un hangar crade et glauque. Et donc les résultats sont tombés. Et c'est les redoublants qui sont admis au deuxième tour. Ils ont eu 5 ans pour potasser le programme et ça a marché. Ils sont encore devant tout le monde. Quant aux autres, ben ils sont à la place où les voyaient les sondages, mais pas à celle où ils se voyaient eux. Dans leur score, la vérité des chiffres a mis 1-0 devant et les voilà obligés de se mettre en rang derrière les redoublants. C'est à la fin des élections qu'on voit qui est qui et qui a combien. Il y en a qui ne sont pas dans les deux redoublants, mais ont quand même gagné. Gagné beaucoup même. C'est tous ceux qui ont des sociétés d'événementiel, organisation de banquets, location de salles de fêtes, sono, boissons, petits fours, etc. Tous les candidats ont fait comme s'ils allaient gagner. Et malgré les chiffres qui sont tombés, bah, il a quand même fallu faire manger, boire les militants parce que tout a déjà été payé. C'est à la fin des élections qu'on compte les dégâts des missiles des électeurs. Tu sais, les bâtiments éclatés, les ponts effondrés, comme par exemple ce qu'on a très longtemps appelé droite et gauche de gouvernement. Bon, c'est une expression qui ne leur convient plus aujourd'hui qu'ils ont fait des scores proches de l'inflation et du prix du litre de gasoil. C'est après les élections qu'on fait les comptes, mais c'est après le premier tour qu'on commence à faire les additions et les multiplications pour savoir si le redoublant va redoubler. À demain.
À demain, Maman, et merci. Vous restez avec nous sur la Radio du Monde dans une minute, le journal avec à la une, législative en France. À tout de suite.
Ce lundi, sur RFI.
Comment la science infuse et se diffuse?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Bienvenue autour de notre dernière table ronde de la saison avec mes confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Science et Vie, Ciel et Espace pour la science, à vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Avec la metteuse en scène espagnole Angélica Lidl qui dérange la cour d'honneur en invitant démons et fantômes pour les funérailles du cinéaste Ingmar Bergman et entrée des artistes, la nouvelle création d'Ahmed Madani qui réunit jeunes filles et garçons autour d'une question: pourquoi voulez-vous faire du théâtre?
Vous m'en direz des nouvelles? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.